Chapitre 8. Il s'était écoulé 3 semaines depuis le départ de M. Forrester quand M. Falkland m'envoya pour affaire à une terre qu'il possédait dans le comté voisin, à environ 50 milles de la résidence principale. La route que j'avais à prendre était dans une direction fort éloignée de la demeure de M. Forrester. Je revenais de l'endroit où l'on m'avait envoyé, quand je me mis à repasser dans mon imagination toutes les circonstances de ma position actuelle, et qu'enseveli dans ces profondes méditations, je viens à perdre toute idée des objets qui m'environnaient. La première résolution à laquelle je m'arrêtai, ce fut d'échapper à la jalousie clairvoyante et au despotisme insupportable de M. Falkland. La seconde fut de mettre toute la prudence et la réflexion possible pour me prémunir contre les dangers dont je prévoyais que ma tentative serait accompagnée. La tête remplie de tous ces sujets de méditation, je me laissai conduire par mon cheval pendant un espace de plusieurs milles avant de m'apercevoir que je m'étais tout à fait écarté de ma route. À la fin, je revins à moi et j'examinai tout ce qui m'entourait, mais je ne découvris aucun objet propre à me remettre sur la voie. De 3 côtés, je voyais la plaine s'étendre aussi loin que l'œil pouvait atteindre, et du 4e, j'aperçus à quelque distance un bois assez considérable. À peine y avait-il devant moi une seule trace qui témoigna que cet endroit eût été fréquenté par une créature humaine. Le meilleur expédient qui se présenta à moi, ce fut de diriger ma course vers le bois dont j'ai parlé, et ensuite de suivre, du mieux que je pourrais, les sinuosités de l'enclos. Par là, je me trouvais, au bout de quelque temps, à l'extrémité de la plaine, mais je n'en étais pas moins embarrassé de savoir quelle route je devais suivre. Un ciel gris et nébuleux me dérobait le soleil. J'eus l'idée de longer toujours la lisière du bois, et je franchis avec quelque difficulté les haies et les autres obstacles qui se présentaient de temps en temps sur mon passage. J'avais l'esprit morne et abattu. La tristesse du temps et la solitude qui m'environnait influaient sur la situation de mon âme. J'avais déjà fait beaucoup de chemin, et je me sentais accablé de faim et de fatigue quand je vins à découvrir une route et une petite auberge à peu de distance. Je poussai jusque-là, et après quelques informations prises, je trouvai qu'au lieu de suivre ma véritable route, j'en avais pris une qui me conduisait plutôt à la demeure de M. Forrester qu'à la nôtre. Je mis pied à terre, et j'allais entrer dans l'auberge, quand M. Forrester lui-même s'offrit à ma vue. Il m'aborda amicalement, m'invita à entrer avec lui dans la chambre qu'il venait de quitter, et s'informa du hasard qui m'avait amené dans cet endroit. Tandis qu'il me parlait, je ne pus m'empêcher de penser à la singularité des circonstances qui nous rapprochaient encore une fois, ce qui me fit naître une foule d'autres idées. M. Forrester me fit apporter quelques rafraîchissements et je m'assis. Pendant tout ce temps, une pensée me revenait toujours à l'esprit. M. Falkland ne saurait jamais rien de cette rencontre. Voici une occasion qui se présentait à moi, et si je n'en profitais pas, je méritais tout ce qu'il pourrait m'en arriver. J'étais à même de conférer avec un ami puissant, sans crainte d'être épié ou surveillé. Est-il surprenant que j'étais tenté de m'ouvrir à lui, non pas sur le sort de M. Falkland, mais sur ma propre situation, et de prendre les conseils d'un homme de mérite et d'expérience, quand j'avais, à ce qu'il me semblait, les moyens de le faire, sans entrer dans le moindre détail qui pût être injurieux à mon maître? M. Forrester n'avait guère moins d'empressement de son côté d'apprendre pourquoi je me trouvais malheureux et pourquoi, pendant les derniers jours de sa résidence chez nous, j'avais évité sa compagnie d'une manière aussi marquée que j'avais paru d'abord la rechercher. Je lui répondis qu'il ne pouvait attendre de moi sur cet article qu'une satisfaction assez imparfaite, mais que je lui donnerais avec plaisir tous les éclaircissements qui étaient en mon pouvoir. Le fait est, poursuivis-je, que pour certaines raisons il m'est impossible d'avoir un seul moment de tranquillité tant que je serai sous le même toit que M. Falkland. C'est une matière que j'ai roulée 100 fois dans ma tête en tous les sens possibles, et je suis à la fin convaincu que je me dois à moi-même de me retirer de son service. J'ajoutais que je me doutais bien que par cette demi-confidence, je m'exposais à me voir désapprouvé plutôt que soutenu par lui, mais je lui déclarais que j'étais fermement convaincu que s'il était possible qu'il fût tout ce dont il s'agissait, quelque étrange que ma conduite pût lui paraître pour le moment, il ne manquerait pas d'applaudir à ma réserve. Il parut rêver pendant un moment sur ce que je venais de lui dire, et puis me demanda quelle raison j'avais de me plaindre de M. Falkland. Je répliquai que je conservais le plus profond respect pour mon maître, que j'admirais ses rares et excellentes qualités, que je le regardais comme formé pour le bien de l'espèce humaine, que je serais, à mes propres yeux, le dernier des hommes, si je me permettais un seul mot qui fût à son désavantage, mais que tout cela ne servait à rien, que je ne pouvais lui convenir, que peut-être je ne valais pas assez pour lui, et qu'enfin, quoi qu'on pût dire, j'étais certain d'être extrêmement malheureux tant que je resterais dans sa maison. J'observai que M. Forrester me fixait avec beaucoup de curiosité et de surprise, mais je ne m'arrêtai pas pour le moment à cette circonstance. Revenu à lui-même, il me demanda pourquoi la chose étant ainsi, je ne quittais pas son service. Je lui répondis qu'il touchait là le point qui contribuait le plus de tous au malheur de ma position, que M. Falkland n'ignorait pas combien mon sort actuel me déplaisait. Peut-être lui paraissais-je déraisonnable, injuste, mais je savais très bien qu'il n'en viendrait jamais à donner son consentement à ce que je m'en allasse de chez lui. M. Forrester m'interrompit alors et me dit en souriant que je me créais des fantômes et que je m'exagérais mon importance, ajoutant qu'il se chargerait de lever la difficulté ainsi que de me procurer une place qui me fût plus agréable. Son offre m'alarma sérieusement. Je répliquai que je le suppliais de ne songer pour rien au monde à s'ouvrir sur ce sujet à M. Falkland. J'ajoutai que peut-être ne faisais-je que montrer ma faiblesse, mais que dans la vérité, aussi peu au fait du monde et des affaires que je l'étais, malgré toute ma répugnance à garder ma place, je craignais de m'aller exposer, de propos délibérés, au ressentiment d'un homme aussi puissant que M. Falkland. Que si lui, M. Forrester, avait la bonté de m'aider de ses conseils dans cette circonstance, ou seulement qu'il me permît de compter sur sa protection, dans le cas de quelque événement que je ne prévoyais pas, c'était tout ce que j'osais lui demander, et qu'avec un tel encouragement, je pourrais me hasarder à suivre mon penchant avec plus d'assurance et à travailler moi-même à recouvrer ma tranquillité. Après que je me fus ainsi ouvert à ce généreux ami, autant que je pouvais le faire sans manquer aux convenances et sans compromettre ma propre sûreté, il resta quelques moments en silence et paraissant réfléchir profondément. À la fin, m'adressant la parole avec un air de sévérité qui ne lui était pas ordinaire, « Jeune homme, me dit-il, j'ai peur que vous ne fassiez pas assez d'attention à la nature des choses que vous venez de me dire. Il y a là du mystère. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas prendre sur vous de me déclarer. Le mystère suppose toujours quelque grand tort d'une manière ou de l'autre. Que dois-je penser de vous? Sentez-vous quelle prévention vous faites naître vous-même contre vous dans le début de votre carrière ?» Je répondis que, quelle que pût être cette prévention, j'étais forcé de m'y soumettre, mais que la droiture et la pureté de son cœur me faisaient espérer qu'il ne donnerait pas une mauvaise interprétation à une réserve indispensable. Il reprit « fort bien, il en sera ce que vous voudrez. Il était absolument nécessaire que je vous donnasse cet avertissement. Je vous déclare que je n'approuve nullement cette conduite et que je suis persuadé qu'aucune explication possible ne saurait la justifier. Quelle bonne raison pourriez-vous donner d'une aussi étrange obstination ? Croyez que je suis dans le cas d'en juger mieux que vous, et je vous exhorte à agir tout autrement. « Monsieur, répondis-je, ce n'est qu'après y avoir bien réfléchi que je vous parle ainsi. Je vous ai fait connaître la résolution que j'ai prise, et quelles qu'en soient les conséquences, je ne dois pas m'en départir. Si, dans le malheur que j'éprouve, vous me refusez vos secours, tout est dit. Cette ouverture de ma part ne m'aura servi à rien qu'à vous déplaire et à vous donner de moi une mauvaise opinion. « Non, non, reprit-il, tout n'est pas dit pour cela. Vous avez une fort mauvaise tête et il faut que j'aie l'œil sur vous. Je ne puis avoir en vous autant de confiance que j'en ai eu jusqu'à présent. Mais je ne vous abandonnerai pas pour cela. En dépit de tous mes principes, la balance penche encore pour vous. Combien de temps s'y tiendra-t-elle, c'est ce que je ne saurais dire, car vous lui avez donné une furieuse secousse. Je ne m'engage à rien. mais j'ai pour règle d'agir exactement comme je suis affecté. Je ferai donc pour le moment ce que vous désirez de moi. Dieu veuille que ce soit pour le mieux. Soit à présent, soit dans un autre temps, je vous recevrai dans ma maison avec la confiance que je n'aurai pas lieu de m'en repentir et que tout ceci s'éclaircira aussi favorablement que peut le désirer l'homme le plus jaloux de votre bien-être. Nous en étions ainsi à traiter cette matière si importante pour ma tranquillité avec tout l'intérêt qu'elle méritait quand un événement, le plus cruel de tous ceux que j'aurais pu redouter, vint nous interrompre. Sans se faire annoncer, et comme si la foudre l'eût vomi sur nous, M. Faulkland parut dans la chambre. J'appris ensuite que M. Forrester était venu jusqu'à cet endroit pour aller à la rencontre de M. Faulkland, avec lequel il avait rendez-vous à la poste voisine. M. Forrester avait été retenu dans l'auberge où nous étions par notre conversation qui lui avait fait un moment oublier son rendez-vous, tandis que M. Faulkland, ne le trouvant pas au lieu indiqué, avait toujours été en avance sur la route de la maison de son frère. Mais pour moi, cette rencontre était la chose la plus inexplicable du monde. En un instant, je prévis l'affreuse complication de malheur que renfermait cet événement. Aux yeux de M. Faulkland, l'entrevue d'entre moi et son parent devait paraître l'effet non du hasard, mais d'un projet concerté. J'étais totalement hors de la route du lieu où il m'avait envoyé. J'étais dans un chemin qui conduisait directement à la maison de M. Forrester. Que devait-il penser de tout ceci? Pour quel motif me pouvait-il supposer en cet endroit? Que j'eusse dit la vérité, c'est-à-dire que j'étais venu là sans dessein, et simplement parce que je m'étais égaré, j'aurais eu l'air de débiter un mensonge le plus impudent qu'on eût jamais inventé. Me voilà donc pris sur le fait, et en relation avec l'homme dont la société m'avait été si sévèrement interdite. Mais dans la circonstance, cette relation avait un caractère bien différent de celle qui avait déjà causé tant d'inquiétude à M. Faulkland. Alors, elle avait lieu ouvertement et sans mystère. Ainsi, la présomption était qu'elle n'avait pour objet rien qui fût dans le cas d'être cachée. Mais l'entrevue actuelle, en la supposant concertée, avait au dernier degré tous les caractères de la clandestinité. Et non seulement elle était clandestine, elle était encore de ma part une entreprise excessivement périlleuse. C'était avec les plus terribles menaces qu'une relation avec M. Forrester m'avait été défendue, et M. Faulkland n'ignorait pas quelle profonde impression ces menaces avaient faites sur mon imagination. Ainsi, une telle rencontre ne pouvait pas avoir été concertée pour un objet ordinaire, mais un objet dont la seule pensée ne le mit pas au supplice. Tel était mon crime, telle était l'angoisse affreuse que devait causer ma présence en ce lieu, et il était raisonnable de supposer que la peine qui m'était réservée y serait proportionnée. Les menaces de M. Faulkland retentissaient encore à mon oreille, et j'étais dans un vrai délire de terreur. La conduite du même homme est souvent si différente d'elle-même dans certaines circonstances qu'elle est impossible à expliquer. Dans cette crise si terrible pour lui, M. Faulkland ne parut pas le moins du monde agité par ses passions. Il fut un moment muet de surprise. Ses yeux furent comme éblouis de ce qu'il voyait. Mais, la minute d'après, pour ainsi dire, il fut parfaitement calme et maître de lui-même. S'il en eût été autrement, je ne doute pas que je n'eusse osé entreprendre une explication et y mettre tant de franchise et d'assurance qu'elle n'eût pu produire qu'un très bon effet pour moi. Mais, dans cet état de choses, je me laissais subjuguer. Je cédais, comme je l'avais déjà fait, à l'influence accablante de la surprise. À peine osais-je souffler. Je regardais tous les objets d'un air inquiet et stupide. M. Faulkland, tranquillement, m'ordonna de retourner au logis et de prendre avec moi le valet qu'il avait amené avec lui. J'obéis sans dire un mot. J'ai su par la suite qu'il s'était informé de M. Forrester, dans le plus grand détail, des circonstances de notre rencontre, et que celui-ci, voyant que le fait était découvert, et se laissant aller à cette habitude de franchise si difficile à contraindre quand elle a bien pris racine dans un caractère, avait raconté à M. Faulkland tout ce qui s'était passé, sans taire même les observations que ma confidence lui avait fait faire. et M. Falkland avaient répondu à cette communication par un silence étudié et équivoque qui n'avait nullement opéré à mon avantage sur l'esprit déjà prévenu de M. Forrester. Ce silence était en partie une suite de l'état d'attention et d'anxiété où était son esprit. Peut-être aussi était-il en partie calculé pour l'effet qu'il devait naturellement produire. M. Falkland, n'étant nullement éloigné d'encourager des préventions contre la réputation d'un homme qui pouvait quelque jour attaquer la sienne. Quant à moi, je repris le chemin du logis, car il n'y avait pas à résister. M. Falkland, avec un dessein auquel il avait su donner adroitement l'apparence d'un hasard, avait eu soin d'envoyer avec moi un garde pour accompagner son prisonnier. Il me semblait que j'étais conduit à l'une de ces forteresses fameuses dans l'histoire du despotisme, où le sort de la malheureuse victime reste inconnu pour jamais, et quand j'entrais dans ma chambre, je me regardais comme dans un cachot. Je songeais que j'étais à la merci d'un homme dont ma désobéissance avait exaspéré la cruauté déjà exercée par des meurtres successifs. Quelquefois, je m'étais versé des plus brillantes chimères. J'avais rêvé les plaisirs, l'autorité, les honneurs m'environnant au milieu de ma carrière. Et qui n'en a fait autant ? Surtout quand on est né avec une imagination aussi active et une âme aussi ardente que la mienne. Ces riantes perspectives se fermaient pour jamais. Je tombais à l'entrée de cette carrière que j'avais parcourue si longtemps en idées, avec d'inexprimables délices. Ma mort pouvait n'être différée que de quelques heures. J'étais la victime sacrifiée aux tourments d'une conscience coupable, aussi incapable de repos qu'insatiable de crime. J'allais être effacé de la liste des vivants, et mon sort resterait enseveli dans un secret éternel. L'homme qui allait ajouter mon homicide à tous ses crimes passés se montrerait le lendemain au public et recevrait encore les applaudissements et les témoignages de l'admiration des hommes. Au milieu de toutes ces épouvantables images, une idée vint adoucir un peu mes souffrances. C'était le souvenir de cette tranquillité si étrange et si inexplicable qu'avait montré M. Falkland au moment où il m'avait découvert en tête-à-tête avec M. Forrester. Ce n'est pas que j'y fusse trompé. Je savais fort bien que ce calme était passager et qu'il serait suivi d'une tempête horrible et d'un déluge des plus féroces passions. Mais un homme poursuivi par des terreurs telles que les miennes s'accroche au moindre roseau. Je me dis à moi-même que cette tranquillité était un moment important à saisir, que plus il devait être d'une courte durée, plus il fallait se hâter d'en profiter. Je ne pouvais pas supporter l'idée que ce serait peut-être par ma faute d'activité ou de hardiesse de ma part que les craintes dont j'étais assailli viendraient à se réaliser. En un mot, par la raison même que je redoutais déjà la vengeance de M. Falkland, je pris la résolution de risquer la possibilité de la rendre encore plus implacable et de terminer tout d'un coup mes affreuses incertitudes. Ajoutez à ceci que j'avais déjà fait part à M. Forrester de la position où j'étais, et qu'il m'avait donné une assurance positive de sa protection. Cette pensée revenait volontiers à mon esprit, qui puisait encore de l'encouragement et de la consolation dans ma situation désespérée. Poussé par ces réflexions, je me mis à écrire la lettre suivante à M. Falkland. « Monsieur, j'ai formé le projet de quitter votre service. C'est une mesure que nous devons tous les deux désirer. Alors je reviendrai, comme il est juste, maître de mes actions. » Et vous vous serez délivré de la présence d'une personne dont vous ne supportez la vue qu'avec répugnance. Pourquoi voudriez-vous m'assujettir à une pénitence éternelle ? Pourquoi voudriez-vous étouffer dans la souffrance et le désespoir toutes les espérances de ma jeunesse ? Consultez les principes d'humanité qui ont marqué le cours de toutes vos actions, et que je ne sois pas, je vous en supplie, l'objet d'une rigueur inutile. Mon cœur est pénétré de reconnaissance pour toutes vos bontés. Pardonnez à mon sincère repentir les fautes de ma conduite. Je regarde le traitement que j'ai reçu dans votre maison comme une suite presque continuelle de bienfaisance et de générosité. Je n'oublierai jamais les obligations que je vous ai, et jamais je n'y serai infidèle. Je demeure, monsieur, votre très reconnaissant, très respectueux et très dévoué serviteur. Caleb Williams. C'est ainsi que j'employai la soirée d'un jour à jamais mémorable dans l'histoire de ma vie. M. Falkland n'étant pas encore entré, quoiqu'on l'attendît d'un moment à l'autre, j'eus l'idée de me servir du prétexte de la fatigue pour esquiver une entrevue avec lui. Je me mis au lit. Le lendemain matin, j'appris qu'il n'était revenu que fort tard, qu'il m'avait fait demander, et qu'ayant su que j'étais au lit, il n'en avait pas dit davantage. Assez satisfait de ce rapport, je descendis au salon du déjeuner et j'y restai quelque temps à ranger des livres et à terminer quelques autres petites occupations en attendant que M. Falkland parût. Au bout de quelques minutes, je reconnus son pas que je distinguais à merveille dans le corridor du salon. À l'instant même, il s'arrêta et je l'entendis qui parlait à quelqu'un d'un ton assez délibéré, quoiqu'en baissant un peu la voix. Mais par mon nom qu'il répéta à plusieurs fois, je compris qu'il s'informait de moi. Alors, conformément au plan auquel j'avais cru devoir m'arrêter, je posai ma lettre sur la table à l'endroit où il avait coutume de s'asseoir, et je sortis par une porte au moment où il entrait par l'autre. Cela fait, je me retirai, dans l'attente de l'événement, à une petite pièce qui formait cabinet au bout de la bibliothèque et où je me tenais assez souvent. Il n'y avait que 3 minutes que j'y étais quand j'entendis la voix de M. Falkland qui m'appelait. Je vins à la bibliothèque où il était. « Voici votre lettre, » me dit-il en la jetant devant moi. Il avait l'air d'un homme qui médite quelque chose de terrible et qui cherche à se donner un extérieur d'indifférence et d'insensibilité. Je ne puis pas me faire l'idée d'une contenance plus propre à imprimer l'horreur ou à jeter l'alarme dans le cœur de la personne qui se trouvait être le second d'une pareille entrevue. « Mon cher, » continua-t-il, « je crois que vous m'avez montré à peu près tous vos tours, et que je sois damné, si la farce n'est pas bientôt à sa fin. Avec vos petites gentillesses et toutes vos escapades, vous m'avez pourtant appris quelque chose. C'est qu'au lieu de me tourmenter comme j'ai fait pour éviter vos piqûres, je ne broncherai pas, à présent, plus qu'un éléphant. Je vous écraserai, au bout de tout, avec la même indifférence que je le ferai de tout autre méchant petit insecte qui troublerait ma tranquillité. Je crois que vous avez vous-même prononcé sur votre sort. Je suis à peu près sûr que vous ne serez pas content que vous ne m'ayez attiré tout entier sur vous. Au reste, vous pouvez essayer. La seule chance qu'il y ait pour vous est dans la patience à endurer ce qui vous attend. Je suis à présent parfaitement insensible à tout ce que vous pouvez avoir à souffrir, mais je n'y trouve aucun plaisir. « Je vous laisserai là, s'il m'est possible. » Je ne sais ce qui a donné lieu à votre entrevue d'hier avec M. Forrester. C'est peut-être dessein, c'est peut-être hasard, mais que ce soit ce que cela voudra, je ne l'oublierai pas. Vous m'écrivez ici que vous avez envie de quitter mon service. À cela, ma réponse est bientôt faite. Vous ne le quitterez qu'avec la vie. Si vous en faites seulement la tentative, c'est une sottise que vous aurez à maudire tant que vous existerez. C'est là, ma volonté, il n'y a pas à y résister. Le moment où vous me désobéirez sur cet article comme sur tout autre sera celui qui mettra fin pour jamais à vos extravagances. Il se peut que votre situation soit très misérable, c'est votre affaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne tient qu'à vous d'empêcher qu'elle ne devienne pire. Il n'y a ni chance, ni temps qui puisse la rendre meilleure. N'allez pas croire que j'ai peur de vous. Je porte une armure contre laquelle tous vos traits sont impuissants. J'ai creusé un abîme pour vous, et de quelque côté que vous veuillez remuer, en avant ou en arrière, à droite ou à gauche, il est tout prêt à vous engloutir. Gardez-vous de faire le moindre mouvement. Si une fois vous y tombez, vous pourrez appeler à vous si haut qu'il vous plaira, il n'y aura pas d'homme sur terre qui entende vos cris. Arrangez une histoire. Quelque plausible, quelque vraie même qu'elle soit, le monde entier vous aura en exécration comme un vil imposteur. Votre innocence ne vous servira à rien. Je me ris d'une aussi faible défense. C'est moi qui vous dis cela. Vous pouvez m'en croire. Est-ce que vous ne savez pas, misérable ver de terre ? Ajouta-t-il, en changeant de ton tout à coup et en frappant la terre avec furie, que j'ai juré de conserver à tout prix ma réputation, qui m'est plus chère que l'univers et tous ses habitants pris ensemble, et vous avez cru pouvoir y toucher? Allez, reptile, cessez de lutter contre un pouvoir insurmontable. cet endroit de mon histoire est celui sur lequel je réfléchis avec moins de complaisance. Comment se fit-il que je fus encore une fois entièrement subjugué par le ton impérieux de M. Falkland et que je n'eus pas la force de proférer un mot? Le lecteur aura occasion de s'apercevoir par la suite, en beaucoup de circonstances, que je ne manquais ni de facilité pour imaginer des ressources, ni de courage pour entreprendre ma justification. La persécution a donné à la fin de la fermeté à mon caractère, et elle m'a appris à me comporter en homme. Mais, dans la circonstance actuelle, je fus étourdi, confondu, muet d'effroi et d'irrésolution. Le discours que je venais d'entendre était dicté par la frénésie, et il fit naître en moi un transport du même genre. Il me détermina à faire la chose même qu'on m'interdisait avec des menaces si redoutables, et à fuir sur le champ de la maison de mon maître. Je ne pouvais pas m'expliquer avec lui. Je ne pouvais pas non plus endurer le joug honteux qu'il m'imposait. Ce fut en vain que la raison vint à mon secours et m'avertit de la témérité d'une mesure prise sans maturité et sans préparation. J'étais dans un état où la raison n'avait plus de pouvoir. Il me semblait que j'aurais pu froidement examiner toutes les objections et les raisonnements qui s'élevaient contre mon projet, apercevoir que la prudence, la vérité, le sens commun même étaient de leur côté, et dire, au bout de tout cela, « Je suis entraîné par un guide plus énergique et plus puissant que vous. » Je ne fus pas long à mettre en exécution ce que j'avais si promptement résolu. Je fixai le soir même pour l'époque de mon évasion. J'avais peut-être, même dans un intervalle aussi court, assez de temps pour délibérer. Mais toute réflexion était inutile. Mon parti était pris, et chaque moment qui s'écoulait ne faisait qu'ajouter à l'impatience inexprimable avec laquelle je brûlais de me mettre en liberté. Les heures s'observaient régulièrement dans la maison, et celle que je choisis pour mon entreprise, ce fut 1 heure du matin. Je descendis tranquillement de ma chambre, une lampe à la main. Je suivis un passage qui conduisait à une petite porte donnant sur le jardin. Ensuite, je traversai le jardin jusqu'à une barrière qui séparait une allée d'ormes et un sentier du dehors de la maison. À peine pouvais-je en croire ma bonne fortune quand je vis mon projet aussi avancé vers son exécution sans qu'il se fût présenté le moindre obstacle. Les images terribles que les menaces de M. Falkland me mettaient sans cesse devant les yeux me faisaient craindre de me voir arrêté et découvert à chaque pas, quoique la passion qui m'entraînait me fit toujours avancer avec la résolution du désespoir. Apparemment qu'il comptait trop sur l'effet de l'avertissement qu'il venait de m'intimer d'un ton si impérieux et si significatif pour juger nécessaire de prendre quelques précautions contre un pareil événement. Quant à moi, ravi de la manière favorable dont s'était terminée ma sortie, j'en tirai un excellent augure pour la réussite finale de mon entreprise.